Nous allons parler maintenant de ce roman, deuxième roman de Corinne Hooks, Ma robe n'est pas froissée. Un premier roman a été sorti, Corinne Hooks, en 2001, intitulé
Le Grand Menu,
aussi qui parlait des rapports entre une petite fille et ses parents. Là, la petite fille, elle a fort grandi, ce n'est peut-être d'ailleurs pas la même du tout. Sinon, quand même, que le rapport au père a l'air assez, quand même, assez proche. À savoir que, bon, voilà, c'est une femme qui, donc, aujourd'hui, se pose la question de savoir comment finalement faire le deuil d'une enfance, d'une adolescence. C'est un roman en trois parties. La première partie est surtout centrée sur ses rapports avec le père qui est décédé. Un père qui est épris de perfection et qui va insuffler ce désir de perfection à sa fille qui ne sera jamais à la hauteur évidemment de cette perfection. Puis deuxième chapitre, rapport à la mère. Une mère aussi, il y a une des scènes, je vais dire, dans ce roman assez forte où finalement il y a quatre générations de femmes qui se retrouvent sur la même photo, arrière-grand-mère, grand-mère,
dans mère, un canapé, l'une à côté de l'autre, oui.
Et on sent finalement qu'elle va recevoir, cette petite fille à l'époque, tout un passé et tout un passif aussi sur les épaules. Elle à qui on interdit de pleurer et pourtant qui va être celle qui va devoir pleurer pour les autres.
Oui, et puis, parce que sa mère ne lui transmet rien du féminin, en fait. Elle ne lui transmet pas ce que c'est qu'une femme. Quand elle a ses règles, sa mère ne lui dit pas ce que c'est. Ce sont des petites veines qui parfois saignent et parfois s'arrêtent. Enfin, c'est une explication complètement effrayante pour cet enfant. Par contre, c'est vrai que dans cette scène-là, sur le canapé, ce qu'on lui transmet, c'est l'obligation de pleurer les larmes de plusieurs générations de femmes aux yeux secs. Et donc, c'est vrai que la transmission qu'on lui donne est très lourde et très, très, très peu constructive pour le futur.
Et donc, cet héritage-là est de la mère et du père va faire qu'elle va à un moment donné aller à la rencontre d'un amour. Alors on n'en dira pas plus, c'est le troisième chapitre et qui explique d'ailleurs le titre de ce roman, Ma robe n'est pas froissée. On parlait du silence tout à l'heure dans la pièce de Bernard Cornu, Marie-Paul Kums, Tout au bord, et j'ai envie de dire aussi que c'est un roman qui est pétri de silence, où chaque mot est terrible, mais où on sent qu'il y a beaucoup derrière chaque mot.
Il y a beaucoup dans le non-dit dans ce roman. Il y a, l'ellipse a vraiment une importance très 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 grande, parce que je crois que dans l'écriture, j'essaie moi de ne pas faire de commentaires, d'analyses, de ne pas donner d'explications, de rester toujours en deçà, de rester simplement dans le fait de montrer les choses, de dire, de dénoncer, de montrer ce qui est, tout simplement. Et je crois qu'à ce moment-là, le lecteur a aussi sa part dans le roman. Il a une place beaucoup plus grande
Il peut créer les espaces,
que si on lui explique. Il y a de l'espace, ça respire. C'est dans cet espace que le lecteur peut prendre place, et aussi que l'inconscient communique entre le lecteur et l'auteur. Il y a là la place du non-dit.
C'est une écriture impressionniste dans cette mesure-là, c'est-à-dire que vous procédez, c'est vrai, pour faire le portrait de cette femme par petites touches, et chaque chapitre apporte finalement une couleur, un détail, une ombre parfois.
Je pourrais peut-être dire que dans la partie sur le père, la première partie où elle s'adresse à son père qui est décédé, peut-être que cette partie-là est un peu travaillée de façon un peu plus impressionniste, dans la mesure où il y a de l'affect qui s'y dit, parce que par rapport au père, la narratrice connaît quand même une certaine émotion. Il y a là quand même un échange d'amour, amour qui n'est évidemment conditionné que par le fait que cette fille doit convenir au père. Elle est aimée que dans la mesure où elle lui convient. Dans les deux autres parties qui sont beaucoup plus dures, beaucoup plus violentes, je ne sais pas si je parlerai d'impressionnisme. Ça me fait plus penser à ce que tout à l'heure Jean-Marie Vinant a dit à propos de Sarah Kane, cette espèce d'écriture un peu coup de poing, ou peut-être le rythme finalement des mots sans beaucoup d'adjectifs. Cette espèce de nettoyage de l'écriture permet aussi d'avoir ce côté incisif et cognant comme ça le lecteur constamment.
Je voudrais reprendre un autre mot qui a été dit, enfin une autre réflexion qui a été faite à propos de Tout au bord. Je pense que c'est Pietro qui l'a fait tout à l'heure. Nous sommes responsables, nous ne sommes pas coupables. Est-ce qu'on ne retrouve pas aussi cette réflexion-là à travers les relations entre ses parents qui sont responsables? Est-ce qu'ils sont coupables de quelque chose? Parce que c'est vrai que dans la troisième partie, on se dit, c'est vrai qu'ils portent une responsabilité énorme. Ils sont coupables aussi de quelque chose, d'avoir fabriqué la personne qui raconte cette
histoire. Oui, absolument. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Pietro tout à l'heure. Nous sommes responsables et pas coupables de notre propre destin et de notre propre inscription dans notre monde. Mais là, je considère que les parents de cette narratrice ont un rôle terrible, parce que dès l'enfance, il lui refuse finalement le statut de personne à part entière, et donc elle arrive à l'adolescence et puis à la jeunesse, elle arrive devant le premier homme qu'elle connaît sans être porteuse d'amour et sans avoir été autorisée à exister en tant que personne. Elle n'est pas vue par les parents en tant que sujet. Et donc là, je crois que les parents portent une très grosse culpabilité là-dedans, une très grosse responsabilité, on peut le voir comme ça.
Est-ce qu'on peut dire, Bernard Cugnot, que la société aussi porte une grande responsabilité dans le fait que finalement, vos personnages, c'est-à-dire nous tous, nous ne parvenons à exister que finalement, difficilement et très tard dans une vie?
Oui, c'est compliqué parce que c'est quoi la société? C'est qui la société? Ouais. C'est comme l'économie. C'est quoi l'économie? On a l'impression
c'est
que
comme
l'économie.
Quand on dit les gens,
oui,
c'est qui?
C'est ça,
nous,
mais parfois l'économie fonctionne toute seule et broie même ceux qui ont mis le système économique en place. Des directeurs qui se font virer. Enfin, en général, ils ont de bons parachutes, mais c'est pas ça. Mais ils sont quand même moralement, ils mettent un système de concurrence à outrance en place, ils y croient, et puis ils se retrouvent victimes d'une concurrence, et hop, eux-mêmes se retrouvent au bas de l'échelle. La société, c'est pareil. Nous mettons tous en place une société. Donc cette notion de responsabilité qu'on évoque là, elle est importante à éduquer, parce qu'on parlait d'éducation aussi. Ça doit se faire tôt. Par exemple, je trouve une chose qui n'a pas de sens pour moi dans les écoles actuellement. Ce sont les points d'éducation. Je trouve que c'est absurde parce que mes enfants reçoivent des points d'éducation comme tous les enfants du monde, sans doute. Mais parfois pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la discipline, avec quoi que ce soit, c'est une espèce de sanction qu'on met comme ça. Alors pour finir, c'est tellement un système qui est instauré qu'on fait les choses pour ne pas avoir de points d'éducation.
Ouais. Eh bien, je vous rejoins aussi, Bernard. Je vous rejoins aussi. Non, c'est vrai qu'il y a,
ça n'a pas de sens.
Il y a une image de l'école qui construit.
Il n'y avait pas d'éducation. Il n'y a pas de points d'éducation. Ouais. Il y avait d'autres sanctions qui existaient. On vous faisait la morale pendant une heure, c'était encore plus casse-pied.
Ouais. Vous mettait au coin.
Mais il y avait une espèce de... ce qu'on appelait, qui était un leurre, l'autodiscipline. Mais s'il n'y a pas l'autodiscipline, ça n'a pas de sens.
Ouais, ouais. Et finalement, dans ces rapports terribles que vous racontez, Corinne, c'est aussi une distribution de mauvais points dont elle est victime, cette femme.
Effectivement,
jeune fille.
Mais cette femme, finalement, elle ne peut aimer son père que quand il est mort. Ouais. Parce que du vivant du père, elle est constamment à subir un examen. Elle est constamment sur la sellette. Elle est toujours rabrouée, tout ce qu'elle fait, toujours pénalisée. Donc,
vous écrivez « L'angoisse en ta présence m'a toujours mordu le ventre. Même alité dans tes dernières heures, tu as puisé l'énergie pour me persécuter.
Mm-hmm. » Elle est constamment persécutée par ce père. Quoi qu'elle fasse, elle est toujours... Donc, effectivement, oui.
Ouais. Est-ce que donc, vous écrivez,
c'est affreux.
Vous écrivez en parlant tout haut. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte de, entre guillemets, là, on va essayer de voir s'il y a un rapport avec les autres invités. Il y a une théâtralité aussi dans votre écriture.
Oui, une mise en scène des personnages, puisque ces personnages, quand je les crée, je les mets là, je les investis, et je ne sais pas pourquoi je le fais, je ne me suis jamais posé la question, mais je constate, et je l'ai constaté encore dernièrement, je suis là complètement dans mon émotion, je suis à l'ordinateur, mais complètement reliée à l'émotion du personnage que je suis en train de faire vivre, et je le fais parler, il parle à voix haute à travers moi pendant que j'écris son texte, tout le temps, et que quand je me relis et quand je recommence, c'est toujours
comme ça. C'est quoi, c'est un affaire d'inconscient aussi, ça? C'est quelque chose qui vous permet à un moment donné de mettre des mots sur des choses qui sont
je ne sais pas,
pas évidentes à...
je relis, je travaille beaucoup l'écriture donc chaque fois je relis ma phrase à voix haute. C'est une façon d'être tout à fait présente à mon texte pour voir s'il est juste. Chaque fois, je le remets sur le métier pour sentir à quel point il pourrait encore être...
C'est une question d'équilibre
pourrait
aussi,
ne pas être
suppose,
juste.
Ouais. Oui, c'est comme ça que vous travaillez, bon, avec Marie-Paul ou tout seul, puisque vous avez aussi écrit tout seul un spectacle qui a été joué la saison dernière. Mais c'est comme ça que vous écrivez aussi, c'est comme ça que...
Parce que c'est vrai que... On se relie à voix haute, non, on se relie... Je ne me sens pas qu'on se relise à voix haute, mais on se relie à voix basse.
Parce que là, le texte est quand même destiné à être en plus joué.
Il doit être dit. Puis est-ce qu'il avance, qu'une phrase de l'un fasse avancer la phrase de l'autre, qu'il y ait une logique, et que s'il y a un moment, il y a une rupture, qu'il y ait une saute d'idées, comme il y a dans les conversations. On passe du coq à l'âne, mais si on passe du coq à l'âne, que ça ait un sens. Ouais, on essaie de ça. Mais ça me frappait tout à l'heure en parlant du roman, on parlait de scènes dans le roman. Et c'est vrai qu'on parle de scènes dans les romans, et que Est-ce que 90% des grands films ne sont pas tirés de romans?
Ouais.
Donc c'est les grands romans sont de grands scénarios.
Aujourd'hui, il y a aussi pas mal de rapports entre l'écrit romanesque et le théâtre. Pour l'instant, il y a par exemple au théâtre Poème, il y a un des chapitres des Éblouissements de Pierre Mertens qui est porté sur scène.
Les corps vivants,
c'est mis en scène par Sue Blackwell, qu'on recevra d'ailleurs avec Pierre Mertens lundi prochain, en tout cas la semaine prochaine. Est-ce que ces rapports-là sont aussi forts, littérature-théâtre, que littérature et cinéma, par exemple?
Je ne sais pas. Moi, je crois que ça dépend des romans.
Pietro,
je pense que ça dépend de l'intensité dans l'ouvrage et la mise en scène que j'ai l'occasion de voir. Le rapport que Mertens s'installe entre les deux personnages est éminemment complexe et humain. Et donc, il est émotif, il est émotionnel, il est historique en plus. Donc, je veux dire, c'est tout ce qui nous construit.
Ouais. Il faut que le texte ait une théâtralité aussi.
De toute manière, on est constitué par une théâtralité. Je pense que Corinne, quand elle relit, c'est parce qu'elle, à voix haute, et nous, on le fait évidemment dès le premier travail à la table, au théâtre, on se relit à voix haute, on écrit, bon, c'est de faire passer le mot à travers son propre corps pour voir s'il y a possibilité d'incarnation au fond et de rester tout à fait branché avec le UC maintenant de ce qui est pensé, dit, pour émouvoir, pour toucher.
Le roman devient dialogue quelque part.
Oui, ouais. il est toujours en chambre close, pensé pour toucher ailleurs, donc c'est une formidable exportation de ce qu'on ressent à l'intérieur comme ça, et donc forcément on teste les capacités, les vecteurs, on teste tout ça. Je pense que les liens, la théâtralité dans les quelques lignes que j'ai sous les yeux de Corinne, c'est aussi les liens familiaux. Moi, personnellement, ça me passionne. Les liens familiaux sont constitutifs de la tragédie grecque, de tout le théâtre.
Et de votre métier aussi, de votre vocation.
Mais oui, mais certainement, puisque c'est avec ça qu'on part tous dans la vie d'abord. On est d'abord un enfant. J'avais la chance hier de lire des pages de Jean-Luc Couters, le voyage de Luca.
Son dernier roman.
Oui, il dit Hitler aussi a pensé à un moment donné, en inventant les coccinelles, la Volkswagen, que l'être humain était d'abord un enfant et qu'il avait besoin de la rondeur du ventre maternel. Et il paraît que c'est historique. Quand il a vu sortir les premiers engins, il s'est mis à pleurer comme un bébé. Donc voilà. Donc je veux dire qu'on démarre tous comme ça.
Ah non,
c'est pas rassurant parce que ça veut pas dire qu'on n'est pas des monstres.
C'est ça qui est terrible.
Que l'enfant est...
Nous ne sommes pas tous des monstres, nous sommes tous des êtres humains.
Des êtres humains, ouais. Et qu'on a la potentialité de l'ange ou du monstre en nous, c'est clair. Et le tout est de voir les points de conduite, les points qu'on donne, et comment... Et puis après,
comment
c'est...
Comment s'en sert,
oui, la société, c'est vous et moi qui dit qu'il y a un mode d'emploi. On ne le connaît pas, on fait démocratie, on essaye. En démocratie, l'État, c'est vous et moi, comme dit Alma dans L'eau du loup. L'État, c'est nous, on vote rythmiquement, j'allais dire chroniquement.
On vote régulièrement.
Voilà. Donc c'est à nous de réfléchir et de repenser et de reconstruire.
Aussi.
Absolument.
J'ai dit montre tout à l'heure au lieu de monstre. Ça devait être un lapsus révélateur parce que c'est vrai que le temps passe et que nous n'avons pas malheureusement plusieurs heures pour parler de tout ça. On en aurait bien besoin. Ma robe n'est pas froissée. C'est aux Impressions Nouvelles et je pense que Pietro, qui l'a déjà le livre entre les mains, va le terminer.